Alors, le passage se trouve en Genèse chapitre 4, versets 1 à 16. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit : J'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger, de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn : Pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : Où est Abel, ton frère ? Il répondit : Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Alors il reprit : Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur : Ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, tu ne me verras plus. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Le Seigneur lui dit : Alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, à l'est d'Éden. Bonne fin de culte.
Bonne fin de culte, c'est prématuré, hein, parce que là, je vais avoir des mots à dire. Est-ce que ça fonctionne ? Très bien. L'année 2010 commence. C'est peut-être le 3e ou 4e fois d'affilée où le prédicateur parle de bonnes résolutions. Ou peut-être Trevor est plus inspiré que moi. Mais dans tous les cas, moi, je ne parle pas ce matin de bonnes résolutions. Premièrement, parce que c'est un peu inefficace. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience vous-même, mais on fait de bonnes résolutions et puis fin janvier ou début février, ça tombe à l'eau et on n'a plus les bonnes résolutions. On n'arrive pas à les garder. Et ça rejoint quelque chose que je trouve dans Colossiens, que je vais juste vous livrer comme cela, en vrac. Si vous êtes mort avec le Christ, vous allez mourir du monde. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose destinée à périr par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de commandements et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse. Culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur. Ils ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. C'est prenant. Donc si vous avez pris de bonnes résolutions, si vous avez décidé de faire d'autres choses, je vais faire ça. Soyez vigilant, soyez prudent. Ce n'est pas très efficace. Et ça peut même nourrir la chair en nous. Non, je ne vais pas parler de bonnes résolutions, mais plutôt de bonnes attitudes qui sont, elles, beaucoup plus importantes et beaucoup plus puissantes que de simples bonnes résolutions. Et nous verrons cela dans le passage que nous venons de lire. D'abord, un peu de contexte. On a eu la création de la terre. Dieu a créé toute chose. Et toute chose était belle et bonne et parfaite. Et puis, il y a eu la chute. Donc, paradoxe, contraste, création, Dieu veut le bien de l'homme, il veut le bénir, chute, et Dieu est obligé à chasser l'homme de son jardin. Et même chose au début du chapitre 4. Il y a dans ce chapitre bénédiction et aussi distance. Bénédiction de la part de Dieu, mais une certaine distance qui s'installe, qui s'établit. Vous remarquerez qu'au début de ce chapitre, Ève met au monde Caïn. Et qu'est-ce qu'elle dit au chapitre 4, verset 1? Elle dit « Avec l'aide du Seigneur, j'ai produit un homme. » Oui, le Seigneur est là, il est béni. Mais en même temps, il y a une certaine distance. Parce qu'ils ne sont plus dans le jardin de Dieu. Ils ne sont plus dans la présence de Dieu de la même façon qu'ils l'étaient au début. Création et chute, bénédiction et distance. Et donc la question qui se pose en ce début du chapitre 4 de Genèse, c'est la question suivante. Comment l'homme doit-il maintenant entrer en relation avec Dieu? Comment, dans ce contexte de création et de chute, de bénédiction et de distance, l'homme doit-il rentrer en relation avec Dieu? Cette question nous amène à considérer une deuxième. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Et puis, à la lumière de ces deux questions, une troisième. Qu'est-ce qui peut nous aider ou nous motiver à nous approcher de Dieu de la bonne façon? Trois questions donc que nous allons essayer de traiter ce matin lors du message. D'abord, comment l'homme doit-il maintenant entrer en relation avec Dieu? Et c'est à travers l'histoire de Caïn et d'Abel que nous allons le voir. Donc il y a Caïn, il y a Abel, tous deux conscients de l'existence de Dieu, conscients du besoin d'entrer en relation avec lui, de reconnaître son existence et son droit d'ingérence dans leur vie. Ce ne sont pas des athées, ce ne sont pas des agnostiques, ce sont des croyants. Ils agissent de la sorte. Et je le dis parce que c'est important, peut-être pour certains ici, de reconnaître que dans ce chapitre, il s'agit de personnes qui croient que Dieu existe et qui veulent entrer en relation avec lui. Ce n'est pas votre cas. Peut-être que vous avez encore des doutes. Mais regardez dans ce passage, comment agissent les gens qui croient que Dieu existe. Et puis ensuite, pour les chrétiens, regardez bien, parce que même chez des personnes qui croient que Dieu existe, qui croient qu'ils ont affaire avec Dieu, il y a une personne qui agit bien et qui est agréée, une autre qui n'agit pas bien et qui n'est pas agréée de Dieu. Personne donc n'est à l'abri de ce que ce passage veut nous dire. Chrétien ou pas, croyant ou pas, ce passage nous parle. Comment l'homme doit-il rentrer en relation avec Dieu? Ces deux messieurs-là, Caïn et Abel, présentent des sacrifices devant Dieu. Voilà comment quelqu'un les a imaginés. Caïn et Abel qui se présentent devant Dieu avec de petits bétails, ou c'est avec le fruit des champs. Comment vous vous imaginez, vous, ces deux frères, à l'aube de la création, au commencement de ce monde, comment vous les voyez-vous? Dans mon imaginaire, ils sont forts, beaux, pleins de vigueur, doués. Quand ils chantent juste. Quand ils manient les choses, ils sont habiles et délicats. Ce sont les premiers enfants de nos parents communs. À l'aube de l'histoire de l'homme, avant que la maladie et les défauts génétiques fassent ravage chez notre race, ils sont magnifiques, ces deux hommes-là. Caïn comme Abel. On pourrait faire des tableaux à leur sujet, des opéras, des romans, des poèmes. Ce sont des merveilles qui se présentent devant leur Dieu avec leur sacrifice. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis on voit qu'ils choisissent des sacrifices en relation avec leur personnalité, avec leur métier. Caïn, qui travaille la terre, apporte du fruit de la terre, c'est dans le verset 3, et Abel, lui, qui est berger, apporte du petit bétail. Donc un sacrifice chacun qui parle de leur métier, de leur personnalité. Et est-ce que c'est cela qui fait la différence. Première question, hein. Pourquoi Dieu est-ce qu'il agrée le sacrifice d'Abel et pas celui de Cain? Et on peut se dire, ah, mais c'est parce que Cain apporte juste du fruit de la terre et puis Abel, lui, il apporte quelque chose de vivant, du petit bétail. Non, ce n'est pas le cas. Parce que si on regarde Lévitique chapitre 1, tout le chapitre concerne les sacrifices du petit bétail. Et Dieu les agrée. Et le chapitre 2 de Lévitique décrit comment on peut apporter à Dieu tout ce qui est végétal, les offrandes végétales. Il n'y a rien dans ce qu'ils apportent, que ce soit végétal ou animal, qui fait la différence. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lit dans le verset 4 et 5 que le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain, ni sur son offrande. Pourquoi? Et c'est en posant cette question que nous pouvons voir les bonnes attitudes qu'il faut développer pour plaire à Dieu. Je vais proposer donc trois attitudes de base qui font toute la différence. Et nous les voyons dans ce texte. Parce que pour Cain, il apporte du fruit de la terre. Et pour Abel, il s'agit des premiers-nés de ses troupeaux et des meilleurs morceaux. Cain présente quelques fruits, sans prendre ni les meilleurs, ni les premiers. Abel, lui, prend soin de choisir les premiers et les meilleurs. Vous voyez la différence? Ça fait toute la différence. Et c'est pourquoi Dieu agrée l'un et pas l'autre. Alors, est-ce qu'il aurait un goût de luxe? Il aime les bonnes choses et pas juste n'importe quoi. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Parce que Dieu, lui, il aime l'odeur de la graisse du bétail. Je pense pas. Ça paraît toujours un peu maigre comme raison. Non. La raison pour laquelle Dieu agrée le sacrifice d'Abel et pas celui de Cain se trouve dans le cœur de chacun des deux hommes. Des attitudes qui les poussent à faire ces différentes offrandes. Et la première attitude que ce sacrifice d'Abel révèle, c'est une attitude de foi. Je m'explique. Si on a un troupeau de petits bétails, de brebis, si on prend le premier-né et si on le sacrifie, on est en train de montrer qu'on a la foi en Dieu par rapport à tout ce qui va suivre. On ne sait pas s'il y aura d'autres. On ne sait pas, justement. C'est le premier-né. Mais on prend le premier-né. Et avec foi en Dieu, on le présente à Dieu. En lui faisant confiance pour la suite. On n'attend pas pour voir, mais on donne. Et donc l'attitude première qui motive Cain dans ce qu'il fait, c'est une attitude de foi et de confiance envers Dieu. Ensuite, c'est une attitude de dépendance. En donnant les premiers-nés, et non seulement les premiers-nés, mais les meilleures portions, les portions graisses, Abel reconnaît implicitement que tout, du meilleur au pire, du premier au dernier, tout lui vient de Dieu. Il n'a rien, sauf ce que Dieu lui donne de sa grâce. C'est pourquoi il peut donner si librement, avec tant de générosité. Il est profondément conscient de sa dépendance de Dieu pour tout. Foi, en faisant confiance à Dieu pour ce qui va suivre. Dépendance, parce qu'il voit que tout lui vient de Dieu, mais tout. Et puis, attitude de reconnaissance en troisième lieu. Troisième attitude qui permet de donner de la sorte, de donner le meilleur et le premier de ce que l'on a et de ce que l'on est, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Je pense que le cœur d'Abel ne cesse de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il lui a donné. Tout vient de lui. Je suis tellement reconnaissant, Dieu, que je suis prêt à donner même ce que j'ai de mieux. Même les premières choses que j'ai, je te les donne. Trois attitudes, donc, qui résument pourquoi Dieu, qui voit dans les cœurs, agrée le sacrifice d'Abel, mais pas celui de Caïn. Le sacrifice d'Abel est donc acceptable pour l'attitude qu'il motive, et pas en soi. C'est pourquoi nous lisons dans Hébreux, chapitre 11, verset 4, que c'est par la foi qu'Abel a offert un meilleur sacrifice que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. Abel, un des premiers héros de la foi, qui fait confiance à Dieu, et on le voit dans son sacrifice qu'il fait du premier et du meilleur. Et l'auteur des Hébreux dit, il parle encore, sa voix retentit encore chez vous, parce qu'il a eu la foi de présenter le meilleur et le premier. Et cela nous permet de comprendre que l'attitude qui motivait Caïn était le contraire. Ce n'était pas celle de la foi. Et voilà l'explication de son sacrifice médiocre. Il n'avait pas la même attitude de foi, de dépendance et de gratitude. Il n'avait pas la même relation avec Dieu. Et son sacrifice l'a révélé. Lui, il voulait garder le premier et le meilleur pour lui-même. Et s'est contenté de donner du fruit quelconque de la terre. Nous voyons dans Jude, verset 11, petite lettre à la fin du Nouveau Testament. Et Jude, quand il commente l'histoire de Caïn, le révèle justement. « Malheureux sont-ils, disait-il au sujet des faux docteurs, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que, pour un salaire, ou dans d'autres traductions, aimant le gain, ils se sont jetés. C'est dans la révolte de Corée qu'ils ont disparu. Aimant le gain pour un salaire, pour garder le meilleur et le premier pour soi-même, Caïn est tombé. La chute de Caïn s'explique parce qu'il avait envie de garder le meilleur et le premier pour lui. Il n'avait pas foi en Dieu pour la suite. Il n'avait pas de reconnaissance dans son cœur vis-à-vis de Dieu. Et cela menait à une attitude possessive par rapport à ses biens. Le texte nous laisse donc comprendre que les deux sacrifices sont différents et que cette différence laisse entrevoir une profonde différence dans leur attitude envers Dieu. Et voilà la réponse à la question. Pourquoi Dieu a-t-il agréé le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? Avec ce texte, donc, nous pouvons répondre à notre première question. Comment l'homme est-il censé maintenant entrer en relation avec Dieu, après la création, après la chute, comme Abel, avec foi, dans la dépendance, avec reconnaissance. Lesquelles attitudes sont révélées par une volonté de notre part de sacrifier le meilleur et le premier de ce que l'on a et de ce que l'on est? Et voilà le défi pour nous ce matin. En regardant de près ces trois attitudes, Nous voyons qu'elles correspondent à toute notre vie, le passé, le présent et l'avenir. Ce texte nous invite à avoir foi en Dieu pour l'avenir, parce que Dieu pourvoira. Ce texte nous invite aussi à vivre dans la dépendance du moment. Tout vient de lui à chaque instant. Ce texte nous invite aussi à agir et à être avec reconnaissance pour le passé. Quand on regarde en arrière, il nous a tout donné. Tout. Deux conclusions donc à tirer de cette première partie du message. D'abord, peut-être c'est votre première fois dans cette église. Je sais que chez nous, à Lagny, il y a souvent des visiteurs. Et c'est la même chose chez vous. J'en suis persuadé. Et donc, peut-être il y a des visiteurs ici ce matin qui se posent des questions par rapport à tout cela. J'aimerais vous dire que ce que Dieu désire chez vous, chez tout le monde, c'est avant tout une attitude de cœur et pas de bonnes actions. Bien sûr, cette attitude de cœur va déboucher sur de bonnes actions, sur un réel amour pour son prochain, et ainsi de suite, sur de réels sacrifices, sur un service sincère de Dieu et de notre prochain dans le monde. Mais ce que Dieu cherche avant tout, chez tout le monde, chez toutes ses créatures, c'est un cœur qui répond à sa grâce avec foi, dépendance et reconnaissance. Nous ne faisons rien si ce n'est de répondre à son mouvement de grâce vers nous. Première chose pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Deuxième chose, ceux qui ont répondu à Dieu avec foi, dépendance et reconnaissance sont amenés inéluctablement à sacrifier ce qu'ils ont de meilleur, leur première chose pour les donner à Dieu. Et donc là, je me permets de vous adresser, vous les croyants, et membre de cette église. Le nouvel an est après tout un moment propice pour se poser la question de ce que nos sacrifices révèlent de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Réfléchissons d'abord à notre vie intérieure. Est-elle consumée par d'autres choses que Dieu ? Dieu a-t-il la première place et la meilleure place dans notre vie, dans notre cœur? Ou a-t-il juste une place quelconque? Comme Cain a donné des produits quelconques. Le premier et le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Qu'en est-il? Réfléchissons aussi à notre vie sociale. Est-elle motivée par un désir de mettre en pratique l'autre grand commandement de la Bible, d'aimer notre prochain, nos voisins, les gens de notre entourage, les gens dans le besoin? Ont-ils le meilleur et le premier de notre vie ou les petits restes? Ensuite, notre obéissance. Qu'en est-il à notre obéissance pratique à la parole de Dieu révélée à nous? Parce que notre obéissance à Dieu est également influencée par ce trio d'attitudes. Si nous avons confiance en Dieu, même dans les détails de notre vie, nous aurons de moins en moins de difficultés à risquer l'obéissance. Parce que souvent, l'obéissance à Dieu se présente comme un risque. Prenons l'honnêteté, par exemple. On a une certaine somme d'argent. On a nos impôts à remplir. On peut peut-être grignoter un peu si on est moins qu'honnête. Et avec cet argent-là, on pourra peut-être mieux subvenir aux besoins de notre famille ou mieux payer les vacances dont on a envie, et ainsi de suite. Et donc, être honnête, ça paraît risqué parce qu'on aura moins. Mais la foi en Dieu nous pousse à l'obéissance parce que nous lui faisons confiance pour la suite. Et la désobéissance révèle qu'en fait, on ne fait pas confiance à Dieu en ce qui concerne ses commandements. Risquons donc l'obéissance à Dieu dans l'honnêteté, dans la pureté des relations, dans la gentillesse. Risquer l'obéissance à Dieu lorsque tout en nous et autour de nous, notre vieille nature et le monde, nous incite à aller vers la facilité et nos propres solutions. Car nous lui faisons confiance pour l'avenir. Tout ce qui ne vient pas de foi est péché, dit Paul en Romains 14, 23. La foi ne peut engendrer que de l'obéissance. Et si nous joignons à cette foi qui risque l'obéissance une attitude de dépendance et de reconnaissance, nous trouverons du plaisir à obéir à notre bon Dieu, plein de sagesse, qui cherche, comme la création nous le montre, notre bien. Donnons-lui le meilleur et le premier de notre obéissance. Et peut-être quelqu'un ici est justement en train de réfléchir à un domaine dans leur vie où ils sont en train de prendre une mauvaise décision par rapport à l'obéissance, par rapport à la sanctification, par rapport à la conduite de leur vie. Faites confiance à Dieu. Il est bon. Il veut notre bien. Ses commandements sont là justement pour nous protéger. Ayons foi en lui. Même chose donc pour notre temps, pour notre argent, pour nos talents, pour notre investissement au sein de l'Église locale. On pourrait développer ce point jusqu'à la fin de la journée. Est-ce que Dieu a le premier et le meilleur de notre temps, le premier et le meilleur de notre argent, le premier et le meilleur de nos talents, et ainsi de suite? Il y a de quoi se culpabiliser. Et justement. Parce que je ne veux pas que l'effet de ce message soit un effet culpabilisant. Où on sort d'ici en se disant « Oui, c'est vrai, Dieu n'a pas le meilleur et le premier de ma vie. Ah mince, je suis quelqu'un d'ingrat, je suis quelqu'un de mauvais. Je dois faire mieux et plus. » Parce que quand j'avais une visite d'un ami irlandais, il me disait « Sur quoi tu prêches en ce moment ? Il n'est pas chrétien. » Donc j'ai essayé d'expliquer ce que je prêchais, j'ai expliqué un peu ce message et l'enchaînement de mes pensées. Et avant d'en arriver à la conclusion, il a dit « Alors, tu veux que les membres de ton église fassent plus et mieux ?» Et justement, la culpabilisation, ça peut être un bon moyen d'y arriver, quoi. Hein ? Oh, je vous ai là, je peux vous faire quoi ? Ce que je veux ? En vous culpabilisant. Et j'ai dit non, en fait, ce n'est pas ça que je recherche. Je ne veux pas culpabiliser les membres de mon église pour qu'ils fassent mieux et plus. Ce n'est pas du tout la raison de ce que je suis en train de dire. Non, tout simplement, j'ai envie que dans ma vie et dans la vôtre, Dieu fait grandir notre foi, notre dépendance et notre reconnaissance. Le reste, c'est des détails. Des détails qui comptent, mais qui sont nettement moins importants que ces attitudes-là. Moi, je fais confiance à Dieu. Si vous avez la foi, la dépendance et la reconnaissance envers lui, Dieu va ouvrir dans vos cœurs pour que vous produisiez les bonnes actions qu'il vous mettra à cœur de faire. Là, je ne fais pas de doute. Alors, travaillons, développons d'abord et avant tout ces attitudes de foi, de dépendance et de reconnaissance. Et pour cela, il n'y a pas de raccourci. C'est en passant du temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans le partage de sa foi avec les membres de l'Église, avec ceux de l'extérieur. C'est comme cela qu'on développe ensemble ces deux attitudes-là. Il n'y a pas de raccourci. Il y a la promesse de Dieu que si on vient vers lui, il nous donnera ces choses-là. Alors, si c'est le cas, et si ces choses-là sont pour notre bien profond, qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, de le faire? D'autant plus que si dans cette relation, on a tout ce que nous avons, dont nous avons besoin pour être épanouis. Si, avec Dieu et dans la foi en lui, dans la confiance en lui, dans la dépendance de lui, on est comme des poissons dans l'eau, libres et pleins de vie, et si, loin de lui, nous sommes comme des poissons sur l'herbe, en train de mourir, si c'est le cas, qu'est-ce qui nous empêche finalement de le faire? De nous approcher de Dieu comme cela, comme il veut? Qu'est-ce qui nous empêche de suivre Dieu fidèlement? C'est dans le verset 7. Le péché est tapis à notre porte. Il désire nous maîtriser. À nous, dit Dieu, de le maîtriser. Tapis à notre porte. C'est votre expérience, je le sais très bien, parce que c'est la mienne. Le péché est subtil, il est souvent camouflé. Il ne s'annonce pas. Il nous attend comme une bête sauvage dans la savane. Il est tapis à notre porte. Il nous attend. Il nous guette. Il veut nous dominer. Et ce péché est capable de nous empêcher de nous approcher de Dieu comme il veut. Le péché, il attend le moment où notre cœur a oublié d'honorer Dieu avant toute chose. Où notre cœur a oublié la foi, la dépendance et la reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour nous présenter des occasions de chute. Petite parenthèse luthérienne pour conforter ce que je viens de dire. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Il est tapé à notre porte. Qu'est-ce que c'est ce péché? Luther disait, et là on ne voit pas très bien, mais je vais le lire. Il y a 10 commandements dans le décalogue, ça nous le savons très bien. Et Luther, il disait que nous enfreignons un des 7 derniers commandements uniquement lorsque nous avons déjà enfreint le premier. Tout péché, disait-il, est une sorte d'idolâtrie à court terme. Au moment de pécher, au moment de basculer dans l'impureté, dans la malhonnêteté, dans le mensonge, au moment de basculer, nous préférons ces choses-là et les résultats que nous croyons obtenir par ces actions mauvaises. Nous préférons ces choses-là à Dieu. Au moment du péché, nous sommes tous idolâtres. Nous sommes finalement très peu à dire « Ok, maintenant je vais pécher. Je vais commettre un péché. Je vais y aller maintenant. » Franco, non. Le péché est tapis à notre porte. Il nous surprend. Il nous prend dans un guet-apens. Apprenons donc à le reconnaître tel qu'il est. Peut-être chez quelqu'un ici, c'est la colère. Reconnaissons-le. La colère, c'est le péché qui est tapé à ta porte. Ou bien la paresse. Tapé encore une fois à ta porte. Reconnais-le, combat-le, domine-le avec la foi, la dépendance, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Peut-être c'est la pornographie pour quelqu'un. Ou bien la médisance. Ces attitudes et ces gestes qui nous souillent, qui nuisent à nous-mêmes, qui nuisent à autrui, qui déplaisent à Dieu, apprenons à les reconnaître. Nommons-les, appelons-les par leur nom, confessons-les, repentons en nous de ces choses. Et voilà, nous sommes en route de les maîtriser. Mais pas tout seul. Pas tout seul. Car si nous sommes censés nous approcher de Dieu en foi, en dépendance et avec reconnaissance, et si le péché nous fait obstacle, La bonne nouvelle pour nous, c'est que notre Dieu a une manière merveilleuse de s'approcher, lui, de nous. Et c'est cela qui nous motive pour nous approcher de Dieu. D'abord, Dieu s'intéresse à notre comportement. Il se présente dans ce passage comme notre juge. Et je vais vous avouer quelque chose dont j'ai honte. Avant, j'ai expliqué l'évangile, la bonne nouvelle, de la manière suivante. Pour comprendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, il faut d'abord comprendre la mauvaise nouvelle de sa colère et du fait qu'il est juge et qu'il fera justice. Vous voyez l'erreur ? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je sois notre juge, qu'il s'intéresse à notre comportement, que les détails de notre vie de tous les jours l'intéressent. C'est une bonne nouvelle que Dieu se penche sur chacun de nos pas pour nous dire si oui ou non, on agit bien. C'est une bonne nouvelle, parce que le contraire est inimaginable. Un Dieu qui s'en fiche de ce que je pense, qui s'en fout de mes actions, ça lui importe rien si je fais le bien ou le mal. Nous avons réellement envie d'un Dieu comme cela? Du tout. Moi, j'ai envie d'un Dieu qui s'intéresse à moi et pour qui mes actions, bonnes ou mauvaises, comptent pour quelque chose. Le fait que Dieu soit notre juge et qu'il s'intéresse à notre comportement, comme il s'intéressait au comportement de Caïn, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait partie intégrale de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu est notre juge. Il s'intéresse à notre comportement. Grâce soit rendue à Dieu pour cela. Et donc il vient vers Caïn. Il vient. Il a observé non seulement ses actions, mais son cœur. Et il donne à Caïn toute la dignité d'un être humain quand il s'approche, lui, le Seigneur et le juge, de Caïn. Et puis, comme un bon père, il veut notre bien. Regardons encore une fois la manière dont il s'approche de Caïn. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne releveras-tu la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. » Il veut le bien de Caïn. Dieu donc qui s'approche de nous en tant que juge, oui, en tant que père qui veut notre bien, aussi en tant que pédagogue, doué et subtil. Il pose les questions. Bouleversante de tendresse, cette manière de s'approcher de nous. Il a patience envers Caïn. Avant que Caïn ne tue son frère, Dieu est là à lui poser des questions. Pourquoi? Comment? Et si? Quelle tendresse! Quel pédagogue! Parce que Dieu lui pose les questions, voyez-vous, non pas pour que Dieu découvre le cœur de Caïn, mais pour que Caïn découvre son propre cœur. Tellement d'occasions dans ce texte pour Caïn de se rendre compte du mauvais choix qu'il était en train de faire. Dieu ne rentre pas tout de suite en jugement. Il ne rentre pas tout de suite en colère contre Caïn. Mais patiemment, il pose ses questions pour ramener Caïn à une remise en question ô combien nécessaire. Il l'encourage aussi. Si tu agis bien, tu te releveras. Il l'avertit. Sinon, tu seras maîtrisé par le péché. Bouleversant de tendresse, le juge, le père, le pédagogue vient à Caïn. Et pourtant, nous savons tous la suite de l'histoire que Marc Chagall a su dépeindre. Le moment vient. Caïn voit son frère. Il l'invite dans la campagne. Il le tue. Dieu le juge, Dieu le père, Dieu le pédagogue. Et Cain a résisté jusqu'à la fin. Voilà jusqu'où le péché peut nous mener. Et après ce crime, Dieu se révèle encore juste et encore une fois pédagogique dans sa manière de punir. Cain doit partir encore plus loin de la présence de Dieu. Partir plus loin de la présence de Dieu. Pour Cain qui vient de tuer son frère. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est la punition qui correspond au crime? Est-ce qu'on peut dire, à partir de ce moment-là, où Cain est banni, un peu plus loin de la présence de Dieu, que justice a été faite? Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin dans l'Ancien Testament pour découvrir que non. Genèse 9, 6 nous rappelle la chose suivante. Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera répandu. Car Dieu a fait l'être humain à son image. Non, Dieu lui-même, il dit que pour un crime tel que le meurtre d'un être humain, rien d'autre que la mort du dit homme ne suffisent. Cain échappe aux conséquences ultimes de son péché. Il n'est pas mis à mort tout de suite par Dieu. Dieu le bannit. Et cette idée-là que les actions et les gestes dont nous sommes capables méritent la mort, que le péché, que le salaire du péché est la mort, c'est Jésus lui-même qui le prononce en disant que même la colère, qui n'est rien que le meurtre en herbe, nous rend passable des feux de Géhenne. Pour la référence, c'est Matthieu 5, 22. Si vous vous êtes mis une seule fois en colère, vous méritez la même chose que Cain. Non, le péché de Cain n'est pas effacé par la punition que Dieu lui donne. La justice n'est pas faite. Il va falloir attendre quelques millénaires avant que Dieu fasse complètement justice. Hébreux 12, 24. Dieu se présente en Jésus, non seulement comme juge, père et pédagogue, mais comme substitut et sauveur. Jésus, le médiateur d'une alliance neuve et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Jésus qui meurt pour les péchés de toute l'humanité. Pour ta colère, pour ta paresse, pour le manque de foi, de dépendance et de reconnaissance dans chacun de nos cœurs, Jésus meurt et son sang parle mieux, avec plus d'efficacité que le sang d'Abel. Jésus, dont la foi, la dépendance et la reconnaissance ont été exemplaires tout au long de sa vie. Jésus, qui ne s'est fait jamais surprendre par le péché. Jésus, qui est l'exemple parfait de la manière dont Dieu s'approche de nous, avec justice, avec amour, avec grâce, avec tendresse. C'est son sang qui parle mieux encore aujourd'hui pour nous. « Où est Abel, ton frère ?» disait Dieu dans le chapitre. « Je ne sais pas, disait-il, suis-je le gardien de mon frère ?» Jésus, lui, est notre grand frère. Il dit, oui, je suis ton gardien. Je suis le gardien de ton âme. Je vais mourir pour toi. Et voilà comment Dieu nous motive pour avoir la foi, la dépendance et la reconnaissance envers lui. en nous donnant avec grâce son Fils, notre grand frère. Que tu bénisses sa parole à chacun de nous.